Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, en podcast sur le site françaisfacile.rfi.fr.
Radio G 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, demain, on sera très certainement à parler de guinguettes. Et ce soir, on vous emmène découvrir le concours international des mini-textiles à Angers. C'est un concours qui rassemble des artistes du monde entier autour d'un format réduit mais riche en imagination. Pour en parler avec nous ce soir, on sera avec Luce Pintor, conservatrice du patrimoine au musée d'Angers. Ce soir, on aura aussi un podcast des indépendantes angevines et on se quittera avec une rediffusion de la bouteille aux trois quarts vide. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va faire un petit point sur l'actualité locale avec toi, Yaël. Bonsoir, Yaël.
Bonsoir.
Gabriel Attal s'est invité à la foire d'Angers ce week-end.
Oui, ce samedi 26 avril 2025, l'ex-premier ministre Gabriel Attal s'est rendu à la 101e foire d'Angers. Déambulé dans les allées de l'événement, c'est ce qu'il a fait. Accueilli en partie par Florence Dabin, la présidente du département, Nicole Dubré-Chira et Denis Masleglia, député de Maine-et-Loire, il est arrivé vers 14h30 au parc des expositions. Bien que surpris, les visiteurs et exposants se sont réjouis de cette présence. L'occasion pour le politicien de rencontrer de nombreux participants et de découvrir des produits locaux. Il a notamment pu découvrir les fameuses caramandes, l'une des spécialités gastronomiques locales, avant de partir à la rencontre des exposants de la foire. Il s'est finalement essayé au métier de l'artisanat aux côtés de l'association angevine L'Outil en Main, qui initie des jeunes de 9 à 14 ans aux travaux manuels.
Une route bloquée après la chute d'un poteau téléphonique à Angers.
Dans la nuit du 26 au 27 avril dernier, un poteau téléphonique est tombé sur la route de la rue Richard Duvernay. Logé entre le trottoir et le long de la chaussée, l'obstacle n'empêche pas la circulation de la rue. La mairie a été prévenue, il est toutefois recommandé de faire preuve de prudence si vous circulez dans le secteur. L'incident n'a pas fait de victime.
Retour sur le match entre l'équipe du SCO et de Lille.
Ce dimanche 27 avril, les Dogs se sont imposés 2-0 face au SCO d'Angers. Cette 31e journée de Ligue 1 a été marquée par l'affrontement au stade Raymond Coppa du match contre l'équipe de Lille à 15h. 7e au classement avant le coup d'envoi, Lille n'a pas tremblé face à Angers et s'est imposé. Alexandre Dujeu, coach angevin, regrette les occasions manquées en début de match par son équipe et a affirmé, je cite, « on a manqué cruellement d'efficacité ».
Merci beaucoup Yael pour ton dernier flash ce soir dans Topette. On te souhaite beaucoup de courage pour la suite de tes études et on espère t'entendre à nouveau dans d'autres radios peut-être, qui sait. Et on peut tout de suite maintenant nous accueillir notre invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais, ce soir du coup, on plonge ensemble dans l'univers singulier du concours international des mini-textiles. C'est organisé par les musées d'Angers et ça a commencé ce 4 avril, ça restera jusqu'en janvier 2026. Et pour en parler, on est avec Luce Pintor, bonsoir.
Bonsoir Noël.
Vous êtes conservatrice du patrimoine à Angers et avant peut-être d'explorer les détails du concours et de l'exposition, on peut peut-être commencer par présenter de manière générale. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler comment est né ce concours international des mini-textiles ?
Le concours international des mini-textiles est né en fait à Strasbourg grâce à une initiative de l'artiste Pierre Daquin qui en fait voulut dédier en fait ce concours aux artistes textiles avec un format bien particulier puisque les œuvres soumises par les candidats ne doivent pas dépasser 12 cm sur 12 cm sur 12 cm. Et après 3 éditions strasbourgeoises et une exposition au musée de la tapisserie contemporaine d'Angers, Pierre Daquin a déplacé le concours à Angers et aujourd'hui c'est la 10e édition qui se tient ici.
Et alors pourquoi Angers, c'est une ville symbolique, ça a une signification ?
Bien sûr, Angers est une capitale textile, on peut le dire. Nous avons deux grands chefs-d'œuvre de la tapisserie dans la ville, avec la tenture de l'Apocalypse qui est présentée au château d'Angers et le Chant du Monde de Jean Lurçat qui est présenté au musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine. Et puis, Angers a une histoire avec le textile. Depuis le XXe siècle, il y a eu de nombreux ateliers lissiers présents et c'est le travail du musée d'essayer de continuer à faire vivre cet art à Angers et puis de présenter des jeunes artistes.
Alors, on peut peut-être rappeler ce que c'est ce concours international des mini-textiles. C'est quoi les principales étapes du concours ?
Alors, tout d'abord, il y a un appel à participation. Les artistes sont invités à répondre à un thème. Cette année, le thème, c'est « Tisser le futur ». Donc, en avril dernier, le concours a été ouvert. Les candidats avaient un petit peu moins de 6 mois pour soumettre leur candidature. Ils devaient envoyer 2 photographies de leurs œuvres avec un titre. En octobre, le jury s'est rassemblé. Des professionnels du secteur, des conservateurs, des artistes. Et puis, on a fait une sélection, en fait, parmi plus de 424 candidats qui, comme vous le disiez, ont participé du monde entier, de différents continents. Et on a réduit jusqu'à avoir 72 candidats retenus. Et puis ensuite, le principe a été beaucoup plus simple, puisqu'il s'agissait à la fois de recevoir ces œuvres qui nous étaient envoyées des quatre coins du monde, et puis de préparer l'exposition.
Et du coup, c'est ceux qui ont été sélectionnés, ils seront exposés du coup toute cette année jusqu'en janvier ?
Exactement.
Et à qui s'adresse ce concours ? Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour être sélectionné ?
Non, c'est justement tout l'intérêt, c'est-à-dire que des artistes professionnels sont invités à participer. Bien sûr, l'intérêt, c'est d'essayer d'être le reflet de la création contemporaine, mais on n'exige pas de la part des candidats qu'ils nous fournissent un CV, des preuves d'exposition ou même des diplômes. Chacun peut participer, donc ce concours est aussi ouvert aux amateurs.
Alors c'est un concours qui existe depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il a évolué au fil du temps, le concours, ou l'ADN est resté le même depuis le début ?
Je crois que l'ADN est resté le même tout simplement parce que les principes du concours sont finalement très simples. Un thème qui se veut à la fois un fil conducteur, mais en même temps qui permette d'ouvrir toute forme d'interprétation aux artistes qui ne se sentent pas contraints. En tout cas, pas trop. Et puis, juste déjà, la limite du format, c'est déjà énorme. Donc, finalement, ça permet d'être extrêmement versatile. Et par exemple, avec Tisser le futur, ça invitait à la fois à imaginer ce que pourrait être l'avenir demain, mais aussi ce que peut être l'art textile demain, à la fois en termes d'expérimentation technique et même de matériaux.
Alors, quel rôle y joue le musée Jean Lurçat dans toute l'organisation et la promotion de cet événement ?
C'est le musée Jean Lurçat qui accueille l'événement, c'est-à-dire que c'est en interne que le concours est organisé, c'est nous qui préparons l'exposition, et puis bien sûr ensuite c'est nous qui l'animons derrière, et je remercie d'ailleurs tous mes collègues qui non seulement ont participé à la construction du mobilier et de la scénographie de Catherine Tacconi, mais également mes collègues du service des publics qui maintenant animent l'exposition, organisent des ateliers, organisent des visites pour tous les âges, c'est-à-dire que nous accueillons aussi bien des publics adultes que scolaires, et puis lors des vacances, les familles sont les bienvenues. On essaie vraiment de faire de cette exposition un endroit le plus intergénérationnel possible.
Et justement, j'allais demander combien de personnes ça attire ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'il y a un public particulier ou justement il est très varié ?
Le public est très varié, c'est un petit peu difficile de vous répondre dans la mesure où nous, on comptabilise le public pour le musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine dans son ensemble. Et évidemment, on attire un public très touristique grâce au Chant du Monde de Jean Lurçat. Donc c'est par exemple beaucoup de visiteurs étrangers qui n'auraient peut-être pas forcément entendu parler du concours des mini-textiles, mais qui le découvrent à leur occasion du passage. Mais on a aussi un public angevin très fidèle. Je suis arrivée à Angers en août 2022. Une des premières choses qu'on m'a demandé, c'est quand le concours des mini-textiles allait revenir. Et je sais d'ores et déjà qu'il y a un public d'Angevin qui se présente à l'exposition, qui a ouvert donc depuis un peu moins d'un mois, mais qui, d'après les premiers chiffres, marche très bien.
Et qu'est-ce qui fascine dans ce concours ? Est-ce que c'est un art qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres musées ?
Alors déjà, c'est vrai que nous sommes un musée dédié à l'art textile, qui est généralement considéré comme un art décoratif, et on peine peut-être à mesurer la place que prend aujourd'hui l'art textile dans la création contemporaine. On mesure vraiment chez la nouvelle génération d'artistes un regain d'intérêt pour toutes ces techniques ancestrales qu'ils viennent réapprendre, revisiter, réinterpréter, renouveler. Et puis je crois qu'il y a quand même aussi le format qui intrigue, c'est que d'une part, ça permet d'avoir un panorama très varié, artistes professionnels comme amateurs, donc des regards très différents. À travers 72 œuvres, c'est tout un voyage finalement avec des visions très différentes. Et puis reste quand même la prouesse technique d'essayer de condenser son art et un propos dans un tout petit format. À chaque fois, ça intrigue.
Et alors, si on se concentre un petit peu plus sur le jury du concours, il est composé de des personnes de... Quels sont leurs métiers ?
Alors, en plus de moi-même et de la directrice des musées d'Angers, Anne Hénaud, une autre conservatrice était présente. Il s'agit de Alice Bernadac, conservatrice à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Donc là aussi, une institution muséale, mais aussi très axée sur la création contemporaine, très engagée dans les questions de faire perdurer l'art textile et notamment l'art de la tapisserie. Et puis nous avons travaillé également avec deux autres artistes, Nadine Altmaier, qui est une artiste angevine, qui expose régulièrement à Paris, et puis Muriel Guillaumet, qui est non seulement une artiste designeuse, mais qui est aussi professeure à Talm, et qui est donc à la fois créatrice d'œuvres d'art, mais également passeuse de son savoir-faire auprès de nouveaux élèves.
Et c'est pas trop dur de devoir sélectionner des œuvres ? C'est quoi les éléments qui sont déterminants ? Il faut que l'œuvre soit singulière, originale ?
Alors déjà, le premier critère, c'est la qualité technique. Il y a aussi le respect de la consigne de répondre au thème du concours. Et puis enfin, comme c'est un concours, il y a quand même la confrontation des œuvres entre elles, c'est-à-dire qu'on fait défiler les 424 candidatures, photo après photo. Inévitablement, les artistes sont aussi un peu jugés les uns par rapport aux autres, et donc c'est vraiment parfois des évidences dans la sélection, et puis parfois un débat un peu plus long entre les différents membres du jury qui défendent aussi leur point de vue.
Luce, vous restez avec nous, on continuera à parler de tout ça juste après, notamment des artistes et de leurs créations. Mais juste avant tout ça, on va faire une pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Coming In de Vagabond.
Coming in.
Oh,
On écoutait Coming In de Vagabond sur Radio G. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est toujours en train de parler du coup de l'exposition des mini textiles à Angers. Et cette année, donc, il y a un thème comme chaque année, je pense. C'est tisser le futur. Luce, est-ce que c'est vous qui choisissez le thème de l'exposition?
Absolument, c'est moi qui ai choisi le thème.
Et alors, pourquoi ce thème? Qu'est-ce qu'il signifie? C'est à chacun de se l'approprier?
C'est à chacun de se l'approprier. En fait, quand je l'ai choisi, moi, je suis arrivée au musée d'Angers donc en 2022, à un moment où l'art textile est en bouillonnement, en fait, sur la scène actuelle. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. C'est un art qui a un regain d'intérêt auprès des collectionneurs, auprès des amateurs. Et ce que je voulais, c'était avoir un concours qui reflète un petit peu ça, à la fois ce qui se fait de nouveau, d'un petit peu innovant, d'expérimental dans l'art textile contemporain, et puis en même temps comment les artistes abordent cet avenir qui se déroule devant eux de manière plutôt optimiste, vu donc ce bouillonnement que je décrivais, et puis en même temps tous les questionnements d'actualité qu'il peut y avoir.
Et alors, cette année, d'où viennent principalement les artistes? Est-ce qu'ils viennent de toute la France, du monde entier, ou il y en a beaucoup qui viennent peut-être de la région, du coin?
Alors, nous avons des artistes locaux, absolument, qui viennent d'Angers ou de Cholet, mais c'est vraiment un concours international. Donc, sur 72 artistes, nous avons 31 Français et 41 artistes étrangers qui viennent majoritairement d'Union européenne ou d'Europe de manière élargie, mais aussi d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Donc, c'est assez varié.
Et pareil, je crois, niveau tranche d'âge, on en parlait un petit peu hors antenne, il y a vraiment de tous les âges. Vous disiez, il y a une personne qui est née en 2004.
Il y a même 6 artistes présents dans l'exposition qui sont nés en 2004, donc la nouvelle génération est bel et bien représentée, et puis en même temps confrontée à des œuvres d'artistes plus expérimentés, plus âgés, puisque l'artiste la plus âgée qui a participé au concours est née donc en 1944, donc là on a un bel éventail aussi intergénérationnel.
C'est aussi le but du concours, peut-être, de pouvoir représenter les amateurs, les personnes déjà peut-être plus professionnelles, des choses comme ça?
Tout à fait. Et puis de toute façon, lors de la sélection des œuvres, nous ne connaissons pas le nom des artistes ni leur âge. Nous avons juste la nationalité pour donner une petite indication, le titre de l'œuvre et puis bien sûr la technique, les matériaux employés. Donc c'est parfaitement anonyme.
Et alors, du coup, le but du concours, justement, pour des jeunes personnes, des jeunes amateurs comme ça, ça peut permettre aussi de leur donner peut-être un bon coup de pouce?
Absolument. C'est difficile pour un jeune artiste de présenter son travail. Et dans la mesure où c'est un concours, ils savent qu'ils ne sont pas exposés parce qu'ils font partie du réseau Angevin, ou alors parce qu'ils sont français, ou il n'y a pas eu d'avantage. Ils ont été vraiment sélectionnés sur la base de leurs propositions, sur la base de leur technique et de leur vision. Et au terme du concours, non seulement ils ont pu participer au vernissage, pour certains d'entre eux, ils ont été invités à enregistrer des petites interviews qui vont être diffusées sur nos réseaux sociaux. Nous allons essayer aussi de rythmer la vie de l'exposition avec d'autres événements qui, à chaque fois, visera à donner un coup de projecteur à chaque participant. Et ils repartent aussi avec non seulement la documentation de l'exposition, mais aussi 2 exemplaires du catalogue. Donc c'est autant de documentation qu'ils peuvent mettre en valeur derrière pour chercher de nouvelles expositions, postuler à des résidences ou tout simplement monter d'autres projets.
Et alors, cette année, comment les artistes se sont abordés le thème « Tisser le futur » Quel genre d'œuvre on a pu voir?
Alors ça, ce sera très visible dans l'exposition, puisqu'en fait, les 72 œuvres sélectionnées, je voulais pas les présenter un peu en vrac dans les 3 salles qui constituent les salles d'exposition du musée de la tapisserie contemporaine. Il fallait scander le parcours en faisant des regroupements. Et en fait, quand j'ai eu les 72 photos des œuvres sélectionnées sous les yeux, j'ai vu qu'il y avait des regroupements thématiques à faire. Par exemple, le premier thème que l'on découvre dans l'exposition, c'est le thème de l'enfance, tout simplement parce que quand on pense au futur, quand on pense à l'avenir, on pense aux générations à venir. Certains artistes ont même déjà des enfants, voire des petits-enfants, et donc c'est aussi à eux qu'ils pensent quand ils songent à l'avenir. Un autre thème, c'est ce que j'ai appelé geste politique, c'est-à-dire qu'il y a différents sous-thèmes que je regroupe là-dedans, c'est-à-dire des artistes qui se sont interrogés sur la question du vivre ensemble, de sa possibilité, de comment le mettre en place, la question de ce que peut l'art dans la société, le thème de l'engagement artistique et puis aussi un thème de la construction, reconstruction, c'est-à-dire comment est-ce que l'art permet de questionner certaines choses pour ensuite refonder sur de nouvelles bases plus saines certains questionnements. Et ça, c'est passionnant.
Et alors, est-ce que vous avez pu constater différentes techniques employées qu'est-ce qu'on retrouve dans les techniques employées par les artistes?
Alors, il y a de tout. Encore une fois, la seule contrainte, c'est le fil ou l'idée de fil. C'est-à-dire que certains visiteurs ou visiteuses seront peut-être surpris de voir qu'il y a des œuvres où, techniquement, il n'y a pas de fibre textile, parce qu'il y a l'idée du fil qui est plutôt abordée derrière. Donc, en termes de technique, on trouve de tout, on essaye d'en explorer plusieurs. On présente, par exemple, ce qu'on appelle des cartels tactiles, où on fait un petit focus sur une technique, par exemple, le feutre de laine, comment on fait du feutre de laine à l'eau ou à l'aiguille, et ensuite, il y a un petit échantillon qui permet de toucher, de se rendre compte en fait ce que c'est vraiment le feutre, puisque bien sûr on ne peut pas manipuler les œuvres, et donc on essaye comme ça de retrouver une dimension un peu tactile au sein de l'exposition et de faire donc focus sur des techniques parfois moins connues, comme par exemple la cantille, qui est une technique en fait de perles, mais faite à partir de fils métalliques entortillés. Ça fait comme des tout petits tuyaux, soit en fil d'or, en fil d'argent ou en fil d'autres métaux, et qu'on brode petit à petit. On a une pyramide en fait qui est faite avec cette technique de broderie, et en fait l'artiste nous explique qu'elle a mis 4 mois pour réaliser en fait cette petite œuvre de moins de 12 cm cubes. Donc,
et est-ce que justement ce mini format c'est une contrainte pour les artistes, c'est un vrai challenge peut-être de s'adapter?
Ça dépend des artistes. À chaque fois, je leur pose la question. Soit ils sont habitués du grand format et donc c'est un challenge bienvenu pour eux d'essayer de condenser leur art dans un petit format. Et puis d'autres, au contraire, sont habitués justement soit à la petitesse de l'œuvre, soit alors à une minutie de la technique qui est telle qu'elle se développe aussi bien sur du petit que du grand format. Et par exemple, je pense à l'art de la tapisserie. Une des premières œuvres qui est présentée dans l'exposition, c'est en fait une artiste qui a répondu au thème en tissant le mot futur en tapisserie, donc concrètement tisser le futur. Et c'est la technique de la tapisserie qui est extrêmement longue à faire. Une tapisserie, ça prend plus elle est grande, plus ça met du temps à faire. Et donc là, c'était l'idée aussi de faire une œuvre petite et de développer son art, donc de manière plus rapide, puisque l'œuvre est petite.
Et alors, est-ce que vous remarquez, si on parle un petit peu plus du thème et si on revient aux œuvres, est-ce qu'elles sont peut-être de plus en plus engagées ces derniers temps? Peut-être politiquement
Pas forcément, dans la mesure où des thèmes de concours précédents se tournaient déjà vers ça. Par exemple, on a eu un thème qui était avec ou sans eau. Nous avons eu un thème autour de la frontière. Nous avons eu un thème autour des jardins qui est déjà invité aussi à réfléchir sur l'aspect écologique de la nature. Mais par exemple, ce dernier thème du réchauffement climatique est également présent dans le concours actuel, tout simplement parce que c'est un questionnement qui date maintenant de au moins une trentaine d'années et donc qui se retrouve forcément dans la création depuis un moment.
On va continuer à parler de ce thème et de toutes ces œuvres juste après, mais on va d'abord faire une petite pause. On va écouter un podcast des indépendantes angevines sur le 100.5 FM.
Les indépendantes angevines, la chronique des femmes qui ont sauté le pas de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous partage une histoire qui va vous donner envie de faire vos valises. Celle d'Emily, travel planner et fondatrice de Lily's Travels. Emily est une jeune quadragénaire maman de 3 enfants. Après 17 ans à jongler avec des chiffres en tant qu'acheteuse, elle se dit « Et si je changeais de cap ?» Je vous le donne en mille, elle se lance dans le monde du voyage. Et quoi de mieux que de lancer sa propre entreprise pour ça? Son parcours professionnel était pourtant bien tracé. Après un BTS en gestion, elle commence sa carrière dans le groupe industriel IWF. Un grand groupe spécialisé dans les domaines de l'énergie, des ressources naturelles, de la logistique et de la chimie. Rien à voir avec le voyage. Émilie gravira les échelons, passant d'assistante achat à acheteuse junior, puis à acheteuse projet. Mais au bout de 16 ans, elle se rend compte qu'elle a fait le tour. La flamme et la niaque ne sont plus là. Crise de la quarantaine? Peut-être. Elle n'a pas forcément envie de changer d'entreprise. Ça ne ferait que repousser le problème. Non. Ce qu'elle veut, c'est vivre un nouveau challenge, être à son compte et surtout faire quelque chose qui la passionne. Après un voyage en Italie, Émilie se dit qu'il est temps d'agir, qu'elle n'a rien à perdre. Organiser des voyages, c'est ce qu'elle fait déjà pour sa famille, alors pourquoi pas le faire pour d'autres ? Tout s'enchaîne rapidement. En quelques jours, elle s'enregistre comme auto-entrepreneur, crée son identité visuelle et ouvre un compte sur les réseaux sociaux. En septembre 2023, Lily's Travels est née. Mais attention, elle ne se lance pas tête baissée. Avant de faire le grand saut, Émilie se renseigne sur le métier de travel planner, encore peu connu en France. Alors d'ailleurs, petite parenthèse pour les non-bilingues, travel planner signifie organisateur de voyage. Et là, je sens que tout s'éclaire. Elle prend le temps de discuter avec des professionnels pour s'assurer que c'est un choix viable. Et par sécurité, choisit de garder son emploi d'acheteuse tout en lançant son activité. Mais rapidement, la demande explose. En mars 2024, galvanisée par le succès, Émilie prend la grande décision de démissionner et de se consacrer entièrement à l'organisation de voyages sur mesure. Un choix qui lui permet de vivre de sa passion, d'avoir plus de temps pour sa famille et d'être complètement épanouie. Son petit conseil pour celles qui souhaitent se lancer ? S'entourer des bonnes personnes et entrer en phase avec son entourage. Parce que créer sa boîte, finalement, c'est comme partir en road trip. Mieux vaut être bien accompagné. Vous pouvez retrouver Émilie, ses offres et tous ses conseils voyage sur son site internet www.lilystravels.com ainsi que sur son compte Instagram lilys-travels. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante d'entrepreneuriat au féminin.
Les podcasts des indépendantes angevines que vous pourrez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio G. Et nous, on est toujours en train de parler donc de l'exposition des mini textiles au musée Jean Lurçat. Est-ce que Luce, vous avez noté peut-être des récurrences dans les motifs ou dans les symboliques qui sont utilisés cette année dans les œuvres?
Alors, dans les formats, oui, tout simplement parce que le fait d'imposer le 12 cm sur 12 cm sur 12 cm, soit ça invite à prendre toute la place, donc on retrouve parfois le format cube qui est pratique en fait pour respecter les consignes tout en investissant le maximum de l'espace autorisé. Le format sphère aussi revient souvent parce qu'elle permet de faire écho au thème du monde tout simplement. On a des œuvres qui symbolisent la planète Terre, soit en train de brûler, soit au contraire en train de reverdir selon que l'approche de l'artiste soit plus ou moins optimiste. On a même une planète Mars qui est en train d'être, qui serait en tout cas investie par l'homme pour être entrée en terraformation et devenir adaptable à la colonisation humaine. Et puis sinon, non, en termes de format, ça peut prendre un petit peu toutes les formes figurées ou abstraites d'ailleurs.
Et alors, je crois qu'il y a des animations autour de cette exposition. Si je dis pas de bêtises, il y aura un atelier tissage, il y aura des parcours commentés ou d'autres choses comme ça?
Alors, les parcours commentés, oui. Pour tous les âges, ce sont les visites dont je parlais tout à l'heure. Et pour ce qui est des ateliers, on les organise à chaque vacances. Et exceptionnellement, puisque nous avons le concours des mini-textiles et puisqu'il y a, on le disait, plusieurs techniques mobilisées, en plus des ateliers de tissage, on va proposer des initiations à d'autres techniques, donc la technique du travail du feutre, la technique de la broderie et notamment de la broderie de perles, et d'autres choses à découvrir encore sur les programmes des musées d'Angers.
Et alors, est-ce que parmi toutes ces œuvres, il y en a certaines qui vont rester dans les collections du musée d'Angers, ou elles vont peut-être toutes y rester?
Alors, elles n'y restent pas toutes, mais comme je vous le disais, c'est la 10e édition du concours qui se déroule à Angers. À chaque édition, on a tâché de faire des acquisitions, en fait, de certaines œuvres qui viennent à chaque fois documenter les concours qui se déroulent à Angers chaque année. Et pour cette édition anniversaire, en quelque sorte, au rez-de-chaussée, les visiteurs pourront découvrir des œuvres des anciennes éditions qui ont été tirées de nos réserves, dont ça fait un moment qu'elles n'ont pas été présentées au public, pour faire un espèce de retour sur ces 10 éditions déjà. Et puis à la fin du parcours, on présente les acquisitions de l'édition précédente qui avait eu lieu en 2021. 8 œuvres avaient été acquises, soit par achat, soit par donation des artistes. Donc au terme de ce concours, en début d'année prochaine, on reviendra vers les artistes pour savoir déjà s'il y en a certains qui souhaitent faire don de leur œuvre. D'autres, on fera un choix sur celles qu'on veut achetée ou pas. Et puis enfin, il y a une dernière chose dont on peut parler, c'est le vote du public. À la fin du parcours, on a mis en place une urne et à chaque fois qu'un visiteur achète son ticket, on lui fournit un bulletin de vote. Il parcourt l'exposition, il peut observer que sur les cartels des œuvres, il y a à chaque fois un numéro et à la fin de sa visite, on l'invite à choisir le numéro de l'œuvre qu'il a préférée. Et en général, nous essayons aussi d'acquérir l'œuvre qui a été sélectionnée, qui a été le coup de cœur du public.
Et après, il y a un prix qui est remis à cet artiste, peut-être ?
C'est pas un prix. C'est pas un prix. C'est plus pour la gloire. L'artiste sélectionné a son nom affiché sur nos réseaux sociaux. Et encore une fois, on essaye de faire l'acquisition de l'œuvre. L'année dernière, c'est une œuvre de Wakisawa, qui en physalis, c'est-à-dire que c'est une œuvre en fibre naturelle, entièrement cousue. C'est extrêmement délicat et fragile comme travail. Et c'est cette œuvre qui avait été le coup de cœur du public.
Alors, c'est déjà bientôt la fin pour Topette. On peut peut-être rappeler à nos auditeurs les informations pratiques concernant cette exposition, peut-être les tarifs, les horaires d'entrée, quels jours sont ouverts le musée ?
Alors, le musée est fermé le lundi, ouvert tous les autres jours de la semaine. Le tarif est le même que dans tous les autres musées, c'est-à-dire que c'est pas un tarif exposition, mais un tarif groupé pour visiter non seulement l'exposition des mini-textiles, mais aussi le reste des collections du musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine. Et puis, l'exposition est à voir, donc elle a ouvert le 4 avril au public et elle est à voir jusqu'au 9 janvier prochain.
Et merci beaucoup, Luce Pintor, d'être passée dans Topette pour nous parler donc de cette exposition. On donne rendez-vous évidemment à tous nos auditeurs là-bas. Concernant le programme de la semaine, nous, demain, on sera du coup sûrement en train de parler de guinguette, vu que le soleil et la chaleur sont de retour. Et pas d'émission pour le reste de la semaine, puisqu'on sera férié. Donc moi, je vous dis à demain et Topette. Alors mon tonton, retour à la littérature et ce n'est pas un poisson d'avril.
Eh bien oui, Nolwenn, me voici à nouveau avec des poches sous les yeux. Et comme il est arrivé que Pierre Benoît me gronde parce que je faisais la part un peu trop belle à la littérature étrangère, aujourd'hui je suis venu avec deux bouquins écrits directement en cocorico. L'un de ces deux romans n'est plus tout jeune, j'en connais d'autres, et l'autre est bien plus récent. En gros, je ratisse large, tu vois, au moins en ce qui concerne les auteurs. Commençons par « La promesse de l'aube » de Romain Gary, paru en 1973. Nous n'étions même pas nés, ni toi ni moi, enfin surtout toi. C'est le récit autobiographique de son enfance et de sa jeunesse avec un personnage central qui n'est autre que sa mère. Une mère russe et juive de référence, tellement archétypale qu'elle en est caricaturale, autant attachante qu'exaspérante. Un personnage avec lequel le lecteur ne va pas s'ennuyer et un lecteur va se dire simultanément...
Je préfère que ce soit tombé sur Romain Gary que sur moi.
Je ne te le fais pas dire. Faut-il préciser que le jeune Romain Gary et sa mère forment une famille monoparentale, comme on dit aujourd'hui, ce qui accroît indéniablement la force du lien qui les unit. L'amour maternel de cette femme seule pour son fils unique s'avère hors du commun. Et ses réactions, comme ses objectifs, sont démesurés d'une totale extravagance. À ses yeux de mère, son fils étant exceptionnel, il ne pourra avoir qu'un destin d'exception. Et elle va tout faire pour y parvenir, en changeant toutefois régulièrement le but professionnel à atteindre et plongeant régulièrement le fiston dans l'embarras. Le jeune Romain passera ainsi du concertiste de renommée internationale au sportif de haut niveau, ou encore du poste de diplomate au service de la France à la position d'écrivain reconnu.
Ce qui finira d'ailleurs par se produire.
Pour ce qui est du poste de diplomate et d'écrivain, oui, assurément. Il est tout de même extraordinaire que les rêves de grandeur de cette femme pour son fils aient fini par se concrétiser. Ironie féroce de l'histoire, la mère de Romain Gary décédera avant que son fils ne devienne, d'une part, consul de France à Los Angeles, et d'autre part, cet écrivain étonnant, deux fois lauréat du prix Goncourt. Mais au-delà de son côté prophétique, La promesse de l'aube est un roman qui nous transporte de la Pologne à la France dans la première moitié du XXe siècle, période troublée si l'on fut. Or, ce qui pourrait être tragique, Romain Gary et sa mère ne vivent aucunement dans l'opulence, va fourmiller d'anecdotes pleines de drôleries. L'humour de Romain Gary n'est plus à démontrer, mais indéniablement, dans La Promesse de l'Aube, l'auteur ne ménage pas les zygomatiques de ses lecteurs. Je vous ai choisi deux extraits parmi des dizaines d'autres. Si après ça vous doutez encore de l'aptitude de Romain Gary à manier l'ironie, je ne peux plus grand-chose pour vous. Romain Gary va ainsi évoquer la découverte de l'inconscient chez Sigmund Freud en créant un curieux parallèle. Le béotien que je suis s'incline respectueusement devant le complexe d'Œdipe, dont la découverte et l'illustration honorent l'Occident et constituent certainement, avec le pétrole du Sahara, une des explorations les plus fécondes des richesses naturelles de notre sous-sol. Plus loin dans le récit, alors que Romain Gary assiste impuissant à la débâcle de juin 40, il essaye de convaincre ses collègues aviateurs de continuer le combat depuis l'Angleterre. Manifestement, ces tentatives ne parviennent guère à dissiper le parfum de défaite qui escorte les faits et gestes des militaires de la base aérienne où il a échoué. Voyez plutôt le portrait qu'il dresse de l'un des pilotes qu'il sollicite. Ses petits yeux me regardaient sans la moindre trace d'expression, pendant qu'une main sur le cœur, je chantais la beauté de la mère patrie, notre volonté de continuer la lutte, l'honneur, le courage et les lendemains glorieux. Dans le genre bovin, il avait incontestablement de la grandeur. Chaque fois que je lis quelque part qu'un bœuf a remporté le premier prix au Comice agricole, je pense à lui. Vous l'aurez compris, si ce n'est déjà fait, La Promesse de l'Aube est à lire absolument. Le livre a été porté à l'écran en 2017 avec Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg dans les deux rôles principaux.
Et ton autre conseil lecture, c'est ?
Le discours de Fabrice Caro. Fabrice Caro peut être plus connu sous l'identité de Fab Caro. L'auteur est réputé pour s'atteler surtout à la bande dessinée. On lui doit notamment le fameux Zaï 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 adapté au théâtre. Fabrice Caro écrit donc aussi des romans. Le discours est l'un d'entre eux.
C'est quel type de discours, un discours politique ?
Pas du tout. Il s'agit pour Adrien, le protagoniste de l'intrigue, de rédiger un discours et de le déclamer lors du mariage de sa sœur Sophie. C'est Ludo, le futur beau-frère d'Adrien, qui a eu cette idée géniale. Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Autant vous le dire tout de suite, même si l'on a accepté l'idée, Adrien ne la trouve pas du tout, mais alors pas du tout, géniale. Et il s'en mord les doigts d'avoir accepté. D'autant que pour lui, sur le front des roucoulades, c'est en train de partir en quenouille. Sa chérie, prénommée Sonia, a en effet décidé et imposé à Adrien de faire une pause dans leur relation. Ça ne sent pas encore franchement le roussi, mais un peu quand même. 36 jours de pause déjà, et notre Adrien n'y tient plus. Alors qu'il s'était juré de se la jouer sphinx, à savoir garçon impassible, conscient que le temps joue pour lui, il craque. Il envoie un SMS à sa dulcinée, un message dont la réponse tarde à lui parvenir et qui par conséquent alimentera toutes les supputations les plus farfelues. Et sur le plan du farfelu, Adrien a dû répondre. Si la belle Sonia ne lui répond pas, bien qu'elle ait lu son message 20 minutes après qu'il lui ait envoyé, c'est évidemment qu'elle a eu un accident, précisément à cause du SMS reçu et qui l'a distraite de sa conduite au volant de sa voiture. Sainte culpabilité, priez pour lui. On l'aura rapidement perçu avec le personnage d'Adrien, le hautement improbable devient certitude irréfutable. Et bien évidemment, la contagion va gagner la problématique du discours. Les versions de discours les plus abracadabrantes, voilà, merci, vont se succéder, oh là là, c'est laborieux là, dans la caboche bien secouée du gars Adrien, ce qui offre de belles opportunités d'hilarité pour le lecteur. C'est bien connu, on rit toujours du malheur d'autrui. D'ailleurs, vous avez dû rigoler de mes dérapages. Ce qui est ici rassurant, c'est de voir que Fab Caro, alias Adrien, alias tous les bras cassés sans exception de ses romans, rit de lui-même. Des situations improbables dans lesquelles il va se fourrer alors qu'il serait si simple de ne pas s'y précipiter. Mais tu me le diras, cher Nolwenn...
Sauf que s'il n'y a pas de galère, il n'y aurait pas d'histoire et donc pas de bouquin.
Tout juste. Et on pourrait même ajouter, et pas de chronique de tonton Albert, ce qui vaudrait peut-être mieux. Aussi, comme l'air du temps n'incite guère à la gaudriole, on ne va pas bouder son plaisir devant des bouquins qui redonnent le sourire. Attention, le sourire n'exclut pas la causticité. Cet humour subtil et un tantinet désespéré. Je ne vous apprends rien. Une louche de Romain Gary et trois comprimés de Fab Caro à n'importe quel moment de la journée et ça devrait aller mieux. À bientôt pour d'autres poches sous les yeux.
Radio G 101.5 FM.
When I'm driving away, you're on the outside looking in. I might seem strange, you don't understand these ways. You're on the outside looking in. Don't look at me the same when I'm driving away. You're on the outside looking in. I might seem strange, you don't understand.
What? Step around, where on thin lines they're picking up. Killed the mice, never did the time. It's a crime what they did to us. Got the gold, I think your life's got better. Short term gain for a lifelong never. Sold the gap to make you rent forever. Rank and file of the fat cat's debtor.
Don't look at me the same when I'm driving away. You're on the outside looking in. I might seem strange, you don't understand these ways. You're on the outside looking in. Don't look at me the same when I'm driving away. You're on the outside looking in. I might seem strange, you don't understand these ways. You're on the outside looking in.
Come on. Round up for the dunces. You be chilling in the room with the nonces. Never seen a problem, no conscience. Guy Fawkes was right, he was on shit. Bleed is dry and your purse gets bigger. Belly got fat and your hair's gotten thinner. Who do you see when you look in the mirror? Looking back at you is the face
don't
of a sinner.
Don't look at me the same when I'm driving away. You're on the outside looking in. I might seem strange, you don't understand these ways. You're on the outside looking in. Don't look at me the same when I'm driving away. You're on the outside looking in. I might seem strange, you don't understand these ways. You're on the outside looking in.
We'll be right back. Différence.